Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
Bonjour et bienvenue sur Beta Série, la radio, pour une nouvelle émission Originals, notre format radio et podcast consacré aux séries qui font l'actu et le buzz. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur notre plateau, une fois n'est pas coutume, pas sur Zoom, à part Simon, que je vais présenter, la team de la nouvelle série OCS 3615 Monique, qui sort le 17 décembre sur la plateforme, avec toutes ses sessions, tous ses épisodes, dès le premier jour. Donc bienvenue au team producteur, Antoine Le Carpentier, de Mon Voisin Production, Emmanuel Val, producteur de Qui Vive, donc tous les deux en coprod, Paul Scarfolio, acteur.
Salut, salut.
Qu'on a vu sur Scam, Les Grands, au théâtre, qui interprète ici un des personnages principaux, Tony, qui est vraiment Tony Truant. Et puis Simon, donc à distance, hein, Simon Buisson, réalisateur. Et je crois que Simon a participé également beaucoup aux phases d'écriture, donc on aura des questions aussi à vous poser à ce sujet. Donc bonjour à vous tous encore une fois. Vous allez le voir, le pitch de cette série comédie, 10 épisodes de 22 minutes, on pourrait dire de comédie rétro, est très cool, très feel good. Il arrive à point nommé pour ces semaines de fête, après cette rentrée un peu difficile. Et pour ne pas gâcher le plaisir, j'ai cité Paul avec nous, mais il est entouré d'autres comédiens et comédiennes hors pair, et notamment ceux qui font la paire, ou plutôt le trio avec lui. J'ai nommé donc Noémie Schmitt et Arthur Mazet, sans oublier aussi les excellentes Anne Charrier, en mère de famille très touchante, et Vanessa Guide dans le rôle de coach un peu particulier que vous nous décrirez, et bien d'autres, bien sûr. Toutes les équipes sont super. Alors, 3615 Monique, c'est une comédie humaine, une histoire d'amitié, où on rit, on s'émeut au gré des étapes d'élaboration d'un service de Minitel rose qui fera rentrer toute une génération dans l'univers du fantasme. C'est aussi une plongée dans la France du début des années 80, encore empreinte des années Giscard. Peut-être pour commencer, qui se lance pour nous pitcher l'histoire de cette série sans spoiler, s'il vous plaît, peut-être
Emmanuel. Allez, c'est parti. Donc 3615 Monique, on commence, c'est 1980. Le gouvernement Giscard lance les premières expérimentations des Minitel. Et donc dans un petit village à Jouy, arrivent les premiers Minitel. Et on a un trio composé donc de Tony, Stéphanie et Simon, qui vont avoir l'idée d'exploiter cette énorme machine pour en faire bien mieux que regarder la météo et pour commencer à lancer une des premières messageries de Minitel Rolls qui va s'appeler 3615 Monique. Et on suit du coup le début et les premiers strates, les premières avancées de cette industrie et de cette aventure dans la saison 1.
Alors effectivement, une série avec le montant en charge progressive, on découvre la relation du trio, le trio qui se constitue, ensuite leur projet qui se développe, un côté très start-up, on va le revoir, entrepreneuriat qui résonne aussi avec notre époque. Peut-être pour commencer, une petite bande-annonce pour illustrer le propos, on va voyager directement en 1981 à la jeunesse du Minitel rose. On vous reprend dans une minute.
Entre ici, Versailles, Vélizy, Villacoublay et les loges en Josas, le Minitel a été distribué dans 2500 foyers. Imagine un service de messagerie érotique, dont le cœur de cible, ce seraient les hommes de 15 à 65 ans. J'ai calculé, ça fait 933 clients potentiels. D'après les sondages, un homme se masturbe environ 3 fois par semaine. C'est ça, non ?
Oui, j'imagine.
3 masturbations par semaine, par client, sur un mois, ça fait, j'ai des calculs,
11 355 ?
Si on fixe un tarif de 50 francs à chaque conversation qu'on leur propose, sur un mois, ça fait un total de
567 798 francs.
Exactement.
Bien. Je pense que maintenant, on a saisi, hein, 3615 Monique. C'est très drôle. C'est vraiment une série enlevée avec un rythme très dynamique. Pour commencer, je vais peut-être vous redonner la parole, Emmanuel, et puis Antoine pourrait partager sur la genèse, en fait. Comment la série, son idée est née? Comment ça vous est venu? Qui en a eu l'idée? Comment vous l'avez mise en place?
L'idée, c'était de parler du Minitel Rose, en fait. On avait envie de faire une comédie, c'était vraiment l'idée de départ, autour de cette période qui nous permettait de raconter une aventure entrepreneuriale française, et aussi de raconter 20-25 ans de l'histoire de France, en gros, de la génération Minitel à la génération Internet. C'était un peu la promesse de la série. Voilà, c'est là-dessus qu'on est parti. Très vite, on a commencé à développer ça, donc, notamment avec Emmanuel et puis Simon qui est arrivé très, très vite. Et on a parlé de tout ça. Et c'était un peu ça. Et comment les fantasmes aussi, c'était une des grandes idées de Simon. Comment les fantasmes arrivent, comment petit à petit le virtuel arrive dans la vie de ces Français, effectivement, qui sont encore à la fin de l'ère giscardienne.
Antoine, à qui s'adresse-t-elle cette série ? Est-ce que c'est parce que on parle des années 80, est-ce que c'est les nostalgiques des années 80, les 40 ans et plus, les boomers, ou une cible aussi plus jeune aujourd'hui ?
Moi, je pense que ça s'adresse aux deux, en fait. Ouais. C'est une petite Madeleine de Proust pour les gens de 35 à 55, 60 ans, mais ça s'adresse aussi à la jeune génération qui peut faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur Tinder, ce qui se passe sur Bumble. Voilà, c'est vraiment, je pense qu'on est sur du 15-65 ans et que tout le monde va adorer rentrer dans cet univers.
Donc effectivement, je pense qu'il y a, il y a effectivement ces deux cibles. Hein. Moi, je suis complètement concerné par cette histoire de Minitel et j'imagine que Paul est un peu moins. Pourtant, même si tu es très, très, très crédible, directement embarqué dans ces années 80, mais ça, c'est pas un outil, c'est pas quelque chose que tu as manipulé, toi.
Alors, si, en fait, si. Ouais. Le Minitel, moi, en gros, le Minitel, ça s'est arrêté en 2012. Donc, moi, j'avais quand même déjà 13 ans. Attention. Et du coup, non, mais en gros, moi, c'est le Minitel, c'est un objet que j'avais par exemple dans ma maison de campagne et que mes grands-parents utilisaient encore quand j'étais petit pour regarder des billets de train, des trucs, machin. Et moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était un ordinateur. C'est pas du tout un ordinateur, mais du coup, moi, je faisais le lien dans ma tête. Et donc, si je l'ai manipulé, après, c'est pas quelque chose avec dont je suis familier vraiment, dont je me suis servi quand j'étais jeune. Je suis jamais allé sur une messagerie rose, par exemple, sur le Minitel, alors que, par exemple, Simon s'en est servi à cet effet de nombreuses fois. Hein, c'est ça que tu nous racontais, ouais. Par contre, là où la série elle se rapproche aussi des jeunes, etc., c'est qu'en fait, ça parle déjà de start-up, de monter sa petite entreprise, et c'est le début d'une ère où aujourd'hui on est les deux pieds dedans, quoi, même enfin le corps entier, et c'est là où je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans, moi et ma génération. Alors je déteste dire moi et ma génération, en tout cas moi je me reconnais dedans ça un peu, mais oui, voilà, moi je me reconnais là-dedans en tout cas, ouais.
Alors une petite question pour Simon, maintenant qu'on rentre dans la série proprement dite, comment au niveau de l'écriture elle a été conçue ? Parce que il y a une histoire trépidante, hein, le rythme est très c'est enchaîné, c'est une comédie, il y a un super rythme, mais il y a aussi chacun des personnages qui a une histoire, on la découvre plus progressivement, il y a l'histoire aussi du trio qui se forme, il y a l'histoire de cette époque. Est-ce qu'au niveau de l'écriture, vous êtes concentré plus sur le plot proprement dit, l'intrigue, ou est-ce que vous aviez vraiment envie de rentrer en détail, de tout de suite travailler sur l'histoire de chacun des personnages ?
C'est vrai qu'il y a, avec justement la rencontre d'Emmanuel Poulain-Arnaud et Armand Robin, c'est un peu la rencontre de deux mondes où eux, au début, avaient un vrai désir de comédie, ce qui est vraiment compréhensible parce que le Minitel est un objet très... Enfin, qui fait sourire tout le monde. Dès qu'on en parle, on sourit, quoi. Parce que le Minitel, on se rappelle tout de suite, je pense déjà des messageries roses. Il y a un clin d'œil parce qu'on sait très bien qu'il y a eu un peu un échec technologique, que c'est une machine qui n'a pas vraiment marché. Et en fait, c'est un objet qui est parfait pour la comédie parce que on sait pas à qui on parle. Donc, il y a toujours des quiproquos à inventer. Il y a plein d'idées à trouver de qui est derrière cette machine et on va le découvrir. Et Tony, par exemple, dans un épisode, se rend compte qu'il parle à son père, par exemple. Et quand il prend conscience de ça, ça crée tout le sel d'un épisode. Donc ça, c'est pour le terreau un peu plus de comédie. Et c'est vrai que moi, c'est ça. J'avais aussi à cœur que ça soit un vrai portrait de génération et que ça raconte comme ça la révolution technologique que le Minitel comporte, quoi. Et voilà, dans ce qu'on déjà dit là un peu Emmanuel et Antoine, c'est qu'en fait, ce Minitel, il a quelque chose de... C'est un peu comme le premier réseau social, en fait. C'est la première fois qu'on met la technologie au service des fantasmes. Et c'est moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine, parce qu'en fait... Alors, Paul blaguait là-dessus, mais c'est vrai que moi, je devais avoir 16 ans, et j'ai, j'ai, j'allais sur le Minitel de mes parents, et en fait, je me souviens que j'ai eu mes premiers émois un peu en parlant à des inconnus comme ça sur le Minitel. Et c'est vrai que le fait de ne pas savoir à qui on s'adresse et d'imaginer quelque chose, ça produit un effet très, très fort. Et c'est pour ça que je pense que, que ce soit Paul qui a quand même, Paul, t'as 21 ans, donc t'es quand même vraiment très jeune. Mais je pense que le Minitel, à part le fait qu'il n'y ait pas l'image et que la machine soit grosse, en fait, c'est un objet qui fait complètement clin d'œil à tout ce que vous utilisez tous les jours, donc d'Instagram à Tinder, comme disait Antoine. Et voilà, donc en fait, il y a un vrai parallèle, et c'est ça, moi, qui me plaisait, c'est d'imaginer que ce trio, en fait, sans le savoir, et on a vraiment travaillé comme ça avec Arthur, Paul et Noémie, on s'imaginait toujours qu'ils étaient peut-être en train de créer, à façon Mark Zuckerberg, le premier réseau social de l'histoire. Mmh. Et d'ailleurs, dans le premier épisode, on les voit réellement faire... on voit vraiment Arthur Mazet, donc Simon Manel, qui crée le premier chat, en fait, pour pouvoir parler à Stéphanie. Enfin, il croit parler à Stéphanie, donc il y a déjà un quiproquo. Et on le voit vraiment créer le premier, presque comme la première discussion de texto, avec des messages et des occurrences comme ça qui vont très vite. Et à filmer, moi, j'ai trouvé ça passionnant, parce qu'en fait, c'était il y a 40 ans, mais j'avais complètement l'impression aussi de filmer en même temps des jeunes d'aujourd'hui qui sont en train de communiquer et s'imaginer de qui est au bout de leur fil Instagram, quoi. Donc ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'avec les auteurs, je crois qu'on a eu à cœur, et c'est exactement ce que tu disais, de réfléchir à par personnage qu'ils soient tous dans un processus libératoire. Ils sont tous sans cesse en train de se libérer de quelque chose. Simon Manel se libère de ses parents, enfin on le voit s'émanciper, voilà, c'est exactement pareil pour Stéphanie avec sa mère bourgeoise, c'est pareil pour Paul là, dans l'épisode 5 avec qui essaye pareil de sortir un peu de l'abribus parental. Et en fait et je crois même dans la façon dont on a fabriqué la série, on a tout le temps essayé d'être très très libre et qu'il y ait quelque chose un peu comme ça, une espèce d'exutoire. Et bon, là je peux même donner la parole à Paul sur le tournage où on a sans cesse fait en sorte d'être dans des conditions, et donc je pense qu'il favorise aussi beaucoup la comédie, mais des conditions où Paul, dis-moi ce que t'en penses, mais t'étais très libre en fait, on s'est autorisé dans la construction des séquences à ce qu'au début, au milieu, à la fin, vous ayez des vrais espaces de liberté.
Carrément, ouais.
C'est aussi le lien entre l'écriture et la mise en scène et vous, où en fait on s'est toujours dit il faut qu'il y ait un lâcher prise dans la série quand on la lance et qu'on se dise ah oui, on sent bien qu'à cette époque il y avait un truc qui était un peu coincé,
ouais,
et on va ouvrir les vannes quoi.
Bah c'est tout se fait en même temps quoi, c'est-à-dire que c'est des personnages qui en même temps sortent de leur leur pression familiale et en même temps ils développent un réseau social qui va décoincer des centaines de milliers de gens derrière, centaines de milliers peut-être, j'ai pas les chiffres exacts, mais mais en tout cas des milliers de gens derrière leur Minitel qui pour la première fois vont avoir l'impression d'accéder à la liberté. Et alors c'est là qu'il y a un truc très ambivalent, c'est que cette liberté elle est imprégnée d'une solitude absolue et du coup là où en tout cas nos personnages, c'est ça que je trouve fort, c'est que eux c'est dans le collectif qui vont se sortir de leur carcan en fait. Alors que mais en faisant ça, ils vont solidifier la solitude de milliers de gens par contre. Mais en tout cas
comme dit Paul, c'est ça, on filme un peu la professionnalisation d'un business, d'une industrie, et exactement comme dit Paul, en fait, à mesure que le trio est de plus en plus proche, sont des amis qu'on aimerait avoir, où il va y avoir bien sûr des antagonismes, ils forment une espèce de team super. C'est vrai qu'à mesure qu'ils font ça, leur business grandissant, on va avoir, bon alors là, je brouille un peu les étapes, mais des questions qui vont arriver de fait dans leur maturation et donc dans les saisons à venir, sur tous les enjeux que va poser la question de leur entreprise, de comment gérer leurs employés, de comment gérer...
Ouais, les locaux,
l'argent...
Où est-ce qu'ils doivent le faire ? C'est peut-être plus dans une chambre, mais ailleurs. Enfin, on va pas spoiler plus. Mais effectivement, il y a tout le projet qui se monte. On pense aussi à des séries récentes. Il est méchant qui gagne. On pense aussi à des séries qui traitent ça, qui sont plus contemporaines, mais autour des réseaux, à Social Network, ou alors à l'époque, déjà ce traitement qui était fait sur Halt and Catch Fire sur les PC. Vous avez été inspiré par ces séries-là ou vous êtes parti comme ça en feuille blanche juste parce que le sujet Minitel en tant que tel, il vous faisait trop.
Non, on a été inspiré. Mais je vais laisser la parole très vite à Simon. Mais les inspirations, en tout cas, une commune de tout le monde, c'était Social Network, quoi, clairement.
Quand même.
Ah oui, très 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 fort. Ouais.
Voilà. En fait, je trouve que, tu sais, dans les années, en fait, tout ce qui est imagerie des années 80, on s'est plutôt inspiré de choses d'époque, de films d'époque. le péril jeune. Après, enfin, Silicon Valley, elle a déjà un petit coup de vieux, cette série, quoi. Mais j'ai l'impression que dans le côté époque, on est plutôt allé chercher sur des films d'époque, là où en fait, dans tout ce qui est l'ascension du personnage, quelque chose de plus, voilà, c'est pour ça qu'il va résonner avec les réseaux sociaux. Là, moi, c'est plus de fait à la Fincher, Social Network, et je sais pas ce qu'on pourrait citer comme autre,
mais yes, The Deuce, qui en parle aussi beaucoup.
The Deuce, exactement. Ouais. Après, je pense que dans 3615, il y a quelque chose, enfin, dans 3615 Monique, il y a quelque chose d'assez anachronique que je trouve une réussite, et on a eu du plaisir à le faire, c'est que on sent que c'est notre monde contemporain qui réfléchit aux années 80. C'est pas une pure comédie d'époque où tout serait complètement resté comme ça 40 ans plus tôt, quoi. Il y a un vrai lien avec la musique, avec l'image, avec Raphaël Vandenbusch. Enfin, on a vraiment essayé de faire un travail, je crois, qui, à tous les endroits, reste quand même moderne, est une lecture de notre actualité, c'est même le travail de Paul, d'Arthur et Noémie, quoi, où en fait, c'est vraiment vous aussi qui vous êtes emparé de ce sujet pour réfléchir à votre génération d'aujourd'hui qui était plongée.
En le regardant comme ça d'un air, enfin, de l'extérieur, mais on trouve que cette série, elle fait aussi, effectivement, elle n'est pas uniquement ancrée dans les années 80, mais qu'elle fait miroir avec notre époque sur ces questions d'entrepreneuriat ou des services virtuels, mais aussi sur la liberté des mœurs, parce que même si l'environnement était très guindé, on le voit avec la famille, notamment certaines familles dans la série, là, encore une fois, je ne spoil pas, mais qui sont vraiment très, très, très guindées, il y a une grande joie de ce trio à ouvrir comme ça les chakras. C'est une grande liberté sans complexe, et quelque part dans une époque Me Too, c'est un peu détonnant aussi, donc je trouve qu'il y a un miroir assez intéressant dans la façon dont vous le traitez, et qui nous parle beaucoup aujourd'hui.
Je sais pas, après le rapprochement avec Me Too, je sais pas si oui, en effet, c'est un endroit où les gens se libèrent, ouais. Ça c'est sûr,
les
gens se libèrent.
La chance qu'on a avec ce service, c'est qu'en fait, il n'y a aucune exploitation derrière leur service, puisqu'en fait, très souvent, c'était des étudiants qui jouaient le rôle de ces hôtesses virtuelles, ou des adultes, et le plus souvent des hommes. Donc en fait, il y avait vraiment aussi ce pied de nez qui était fait à ces fantasmes masculins, qui, croyant parler à des femmes, en fait, parlaient à des hommes.
Exact.
Donc je trouve que c'est quelque chose comme ça qui fait aussi que ça nous protège beaucoup, et aussi d'une certaine façon, c'est une série érotique, mais on ne voit rien. La seule chose qu'on voit, enfin, on lit des mots, on écoute des échanges, notamment ceux de Tony quand il fait toute une métaphore sur le pistil pour parler du sexe. Mais en fait, on ne voit rien. Donc en fait, il y a quelque chose qui reste presque prude quelque part. Et pour nous, pour couronner le tout, et ça aussi avec les auteurs, il y a eu un vrai jeu là-dessus. C'est qu'en fait, si on regarde bien la série, c'est toujours entre les mains de femmes. En fait, c'est Anne Charrier, donc Monique, qui sait très bien ce qui se passe dans son foyer.
Et ouais,
en
fait, perspicace, elle a bien compris.
Au fond, ouais. Elle a presque un coup d'avance, même quand Mitterrand gagne, on voit un sourire sur ses lèvres, donc elle est presque contente que la gauche gagne, alors que son mari est complètement réac. Il y a la petite sœur de Simon, pareil, qui est bien plus dévergondée que son frère. Et en fait, dans le trio, c'est quand même Stéphanie Roussel. Donc,
c'est l'élément déclencheur. Hein.
C'est la meneuse, ouais.
Elle a l'idée, voilà. Elle a l'idée à la base, de tout ça. Ouais. Elle a l'idée, puis le team spirit, Et justement, alors c'est une comédie, c'est très clair, mais on voit que ça traite aussi de beaucoup d'autres sujets. Il y a le traitement de l'époque, il y a la techno, il y a le côté social. Le genre de la série, c'est des 20 minutes. C'est facile. Enfin, c'était un choix de partir sur des 20 minutes. C'est un choix plutôt réservé comédie, ou ça s'est fait comme ça de par la structure du scénario.
C'était un choix de début. C'était un choix clairement, parce que effectivement au départ, comme l'a dit Simon, il y avait une vraie volonté de Emmanuel Poulard-Arnaud et Armand Robin d'aller sur de la comédie. Donc le format 22 minutes est un format qui est plus propice à la comédie dans son rythme. Après, une fois qu'on avait posé ça, on a quand même toujours eu envie de pas être juste dans de la vanne pour la vanne, mais de tirer à chaque fois chaque épisode avec une vraie thématique qui fasse avancer soit un personnage, soit une thématique. Et donc voilà comment on l'a structuré.
Ouais, c'est imbriqué avec ce double fil.
Et on peut parler même de dramédie plus que de comédie.
Oui,
et que ouais. Et qu'on est la référence en 52 en France, c'est 10%, et c'est même si Emmanuel n'aime pas cette comparaison.
J'adore cette série.
On peut dire que c'est le penchant de 10% en 26.
Exactement. Ouais, tout à fait. C'est un peu ce qu'on pensait. D'ailleurs, sans surprise, on retrouve mon voisin de production autour de la table.
Sans surprise.
Paul, dans ce trio, on a Stéphanie, donc la fille intrépide. Ouais. Simon, hein, le nerd qui va monter le service techniquement. Et puis le cool, c'est vous. Hein. Donc votre personnage Tony, c'est le tchatcheur infatigable de la bande, celui qui trouve les bons mots, si on peut dire. Hein, parce qu'il y a les bons mots, il les trouve sur les écrans aussi. Il est plein d'énergie, drôle, débrouillard, il croque la vie à pleines dents. Il veut toutes les filles, toutes les femmes. Comment vous le définiriez, en fait? Est-ce que son rôle dans cette histoire, il va au-delà du gars qui est un peu le commercial de la bande? Il a aussi une certaine sensibilité qui le rend attachant. Voilà, c'est qui ce Tony?
Je pense que on en a beaucoup parlé. Pour moi, la question de l'émancipation, elle a été très importante pour Tony. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qui le rend cool, c'est ces deux personnages autour de lui qui sont Stéphanie et Simon. Sans eux, je pense qu'il serait pas cool. Je pense qu'il aurait mal terminé, quoi, Tony. Il serait, une fois on avait dit ça, il serait mort jeune, quoi. Il y aurait vraiment un truc où il se serait vite oublié. Et je pense que surtout, oui, il aurait pu finir alcoolo dans un coin, qu'on l'oublie complètement. Mais là, il tombe sur ces deux personnages qui vont en fait faire sortir ses côtés cool. C'est-à-dire que son côté tchatcheur, son côté limite un peu violent, mais débrouillard, il va le mettre au service de quelque chose. Et c'est au final, quand il va mettre tous ces aspects-là sa personnalité au service de quelque chose, que ça va en faire un mec cool. Et c'est là que moi je pense qu'il est attachant et que c'est parce qu'il se transforme, quoi. Et voir cette transformation, je trouve ça agréable. Et l'avoir fait, c'était hyper agréable, en tout cas. Voilà. C'est comme ça qu'on a beaucoup, mais on a beaucoup pensé ces personnages comme ça. Arthur, Noémie et moi, et Simon, quand on était dans des sessions de répète, etc., on a vraiment pensé les persos comme ça. On s'est dit, mais en fait, il y a eu un moment où ça a été assez éclairant, je pense, pour nous quatre. C'est qu'à un moment, on s'est dit, mais c'est drôle, parce qu'en fait, ces personnages-là, sans cette rencontre, on s'est imaginé un peu qu'est-ce qui serait devenu sans ça. Et là-dessus, on s'est vraiment dit, ah, mais d'accord, mais c'est là que ce sont des bijoux, quoi, ces persos. C'est parce qu'ils sont trois.
Ils sont très complémentaires.
Ouais, ils sont extrêmement complémentaires.
Ils sont tous hissés vers le haut, l'un par l'autre, en fait.
Complètement, ouais. Ah. Complètement.
Et donc, vers le haut, et pas seulement, c'est que quand tu t'en parles, ça me fait réfléchir que toi, c'est vrai sur les premiers épisodes, Tony, on a peu d'empathie pour lui, on a travaillé ça. C'est un peu la petite frappe, quoi. On t'aime pas au début. Et c'est fou comme, en fait, petit à petit, on apprend à t'aimer. Et à partir de l'épisode 5, je crois qu'on est très attaché à toi. Et en fait, en dramaturgie, c'est souvent quand on part de très bas que finalement on peut monter plus haut. Mais en fait, là, en t'écoutant, je me dis qu'en fait, Arthur, Simon Manel, c'est un peu l'inverse, en fait. C'est que lui, c'est un peu un petit bonhomme tout mou, tout gentil. Et en fait, on le voit vraiment devenir un requin. C'est un peu l'image qu'on le voit devenir plus dur, mettre des vestes en cuir. Enfin. Donc en fait, c'est une double transformation où je trouve que chacun, vous vous donnez un peu de vos caractérisations et il y a un peu un croisement qui s'opère dans la saison, quoi.
Mais après, ouais, c'est ça.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien, ouais.
Mais en même temps... oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Parce qu'en même temps, là-dedans, qu'est-ce qui va rester de Simon?
Tout est positif, parce que toi, ça t'humanise, et je crois qu'on a vraiment envie de te voir t'humaniser, tu deviens assez touchant. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, on parle du comédien, de Paul Carfoglio. Moi, je l'ai casté parce que il sait rire en pleurant. Je crois que c'est un des, je sais pas s'il existe d'autres comédiens en France qui sachent faire ça.
Si, sûrement,
faire
ça, mais sûrement plein.
Je lui disais Joker et il savait faire le Joker. C'est-à-dire qu'on savait pas s'il riait ou il pleurait, quoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment ton personnage. Et en fait, on te voit avec la saison avoir quelque chose de plus en plus sincère. Et bon, faut pas spoiler, mais il y a des choses qui vont,
non, mais il est très solide d'apparence.
À toi. Voilà. Et on va le voir comme ça, voilà. Et en fait, Arthur, c'est tout l'inverse. Je pense que tout ce qui manque à ce bonhomme, sa petite sœur, tout le monde lui dit, mais bouge-toi, il faut un peu se réveiller. Je sais ce qu'elle lui dit. Il dit, il faut se lancer, Simon, et il se lance jamais, donc il est aussi agaçant. Donc, le fait, en le voyant prendre un peu, taper du poing sur la table petit à petit.
Ça fait du bien.
Il va même, alors, ça, on peut spoiler parce que je pense que c'est un bon teaser, mais il va même se rapprocher d'une prostituée qui est interprétée par Vanessa Guide, qui est assez géniale, qui vont
drôlissime.
Justement sortir de la rue pour, et qui vont l'amener à la fac, etc. Et pareil, on va le voir s'acoquiner avec un milieu qui lui ressemble pas du tout, mais pour le coup, également pour le plaisir, vraiment pour le plaisir du spectateur, et dans quelque chose qui reste, je trouve, qui reste empathique et émancipatoire. Cette Vanessa Guide, on est très content de voir que, en fait, elle prend le lead aussi dans leur petite entreprise, et qu'elle va pas rester dans sa caravane, pour le coup, dans une prostitution, qui est vraiment pas glorieuse.
Et plus sordide, ouais.
Mais d'ailleurs aussi, je pense que mon personnage, je sais pas s'il s'humanise, parce qu'en fait, pour moi, le côté petite frappe, le côté un peu violent et tout, c'est un truc qui est très humain, justement. Alors, je pense qu'il se bonifie. Je sais pas s'il s'humanise. Par contre, le perso de Stéphanie, pour moi, vraiment, il s'humanise. C'est-à-dire qu'il part d'une espèce de tête pensante qui ne pense qu'en termes
c'est
de chiffres.
C'est l'entrepreneuse. C'est,
qui est très froide, etc. Et en fait, au contact du de la petite frappe et du tout mignon, elle va s'humaniser et elle va avoir un petit cœur qui bat à la fin, peut-être, on ne sait pas. Mais
on attend. Dans une saison 2, on verra si les coups se font, se défont.
C'est ça, mais voilà.
Messieurs les producteurs, une petite question sur le côté challenge en tant que série historique, parce que c'est une série historique pour OCS, dans la signature, dans leur format signature, placé dans les années 80. Alors c'est un terrain de jeu intéressant, en ce moment c'est assez à la mode, hein. Il y a une pop culture années 80, on va le voir aussi sur une autre série française qui s'appelle OVNI, qui traite aussi de cette époque-là, dans les quelques semaines à venir. Quels sont les défis techniques, voire artistiques aussi, à relever pour raconter une histoire à cette époque? Comment vous l'avez abordé ce challenge au niveau de la production, de l'organisation, de tout ça? Vous l'avez tourné dans quelles conditions?
On a tourné en 28 jours à Angoulême. Voilà, 28 jours, ce qui fait qu'on était à 7-8 minutes utiles par jour. Donc c'est un rythme effréné, vraiment, de tournage. Et c'est vrai qu'on a eu affaire à des techniciens géniaux qui ont donné de leur temps, ont donné de l'énergie, ont cru en ces années 80. Et vraiment, moi, j'ai envie de tirer mon chapeau aujourd'hui à toute l'équipe et aux comédiens qui ont cru, qui ont été à 100% dans la série, voire 110%.
Et Simon, le côté artistique, on a un aspect, il y a du 4 tiers, il y a une image très travaillée, on est tout de suite en immersion années 80 direct. C'était un gros travail, j'imagine, ça aussi, de conception.
Mais je crois que c'est ça. Ouais. Mais comme dit Antoine, le travail, il est d'abord, dans la contrainte, on a trouvé plein de solutions. Parce qu'en fait, quand on nous a dit faites les années 80, on s'est tous regardés en disant mais comment on va y arriver, quoi? Ça va coûter des fortunes. Et de fait, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et en fait, c'est vrai qu'en travaillant sur chaque poste de façon très précise, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est même plus une question qu'on se pose, parce que je crois que tout le monde dit les années 80 marchent à fond. Mais en fait, c'est à tous les postes. Hein, à l'image avec Raphaël Vandenbusch, on a travaillé on travaille les zooms, donc on est tout le temps. Alors déjà, ça fait référence à la série The Office. Il y a quelque chose comme ça qu'on aimait bien. Mais en fait, on vient se focaliser sur des détails et on a appelé ça un peu une mise en scène un peu fétichiste. Et donc, la première scène, c'est tous les détails des années 80, du Rubik's Cube au jouet, au Bic 4 couleurs. Et en fait, c'est des façons très simples, de la même façon l'utilisation des archives. On a carte sur table avec Giscard dans l'épisode 1, Coluche, Colarocho. Il y a la radio Macha qui arrive assez vite. Enfin, c'est plein de petites astuces qui font qu'on ne doute plus du tout de l'époque. Et alors, avec un travail aussi dans les costumes, dans les hauts décors, avec ce que j'appelle le haut décor, c'est vraiment les bustes, quoi, avec Elisa Ingracia qui travaillait énormément les détails et la DA des visages. Donc, c'est plein de moyens comme ça assez inconscients. C'est aussi un travail avec la musique où Paul Sabin n'a travaillé qu'avec des instruments de l'époque.
Une musique, moi, que j'ai en tête, elle me quitte plus,
Voilà. Et en fait, on a acheté aucun droit musical. Tout a été composé, quoi. Donc, en fait, c'est pareil. C'est juste à la force de la sueur et de l'imagination qu'on a, je trouve, à tous les postes, trouvé comme ça des astuces. Le haut décor, pareil, avec Laurent Weber, où il a construit simplement des choses. Chaque fois, comme tout est cross-bordé, on essaie d'avoir le moins de décors possible. Et les peu de décors qu'on a, soit on a des super décors naturels qui marchent encore 40 ans plus tard à Angoulême et il n'y a rien à faire. Ou alors effacer juste un petit panneau au fond. On a les PTT, par exemple, on a reconstitué complètement le décor. Mais c'est des équipes qui sont, de fait, comme disait Antoine, très généreuses, qui ne comptent pas leur temps. Et je crois qu'il y avait un amour un peu... Enfin, pour ces chefs de poste, c'est quand même une super aventure de faire les années 80, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'est plus grisant presque que faire du contemporain, forcément, quoi. Et je crois qu'on a eu à cœur, et ça, c'est comme à l'écriture aussi avec les auteurs, c'est qu'on voulait pas rire de l'époque. On n'a jamais voulu faire quelque chose d'un peu cliché sur l'époque, c'est-à-dire sortir les fluos, les mulets. En fait, aujourd'hui, il reste un peu que les clichés des années 80, et je crois qu'on a fait attention qu'on soit naturaliste sur l'époque et qu'en fait, on reste assez sobre, assez précis, en fait. Et finalement, le début 80, c'est les tons un peu marron, verdâtre, un peu jaune, un peu orangé. Mmh. Et donc, il y a toute une DA comme ça qu'on a vachement respectée. Et même la colorimétrie, je l'aime bien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle reste, c'est pas le cliché de se dire on va arriver dans de l'aérobic et du fluo.
Non, non, c'est la colorimétrie de tout l'habitat de Simon, un des personnages qui est extraordinaire, oui. Notamment. Non, non, c'est l'immersion est vraiment très, très réussie. Bravo, bravo effectivement à toutes les équipes. Ça passe vite, le temps tourne, on a tellement de choses à se raconter sur 3615. Peut-être un dernier mot de chacun pour encourager notre communauté à mettre 3615 dans leurs agendas, les agendas bêta-série, et la voir dès qu'elle sortira dans 2 jours. Donc, petit tour de table, Emmanuel.
Et ben, je pense que vraiment, pour ceux qui connaissent pas le Minitel, ce sera une super introduction. Et comme disait très justement, notamment Simon, ils vont voir à quel point en 30 ans, 40 ans même, la technologie n'a plus la même idée, mais ça a quasiment pas évolué. C'est-à-dire que ce qu'on faisait il y a 40 ans, on le fait encore aujourd'hui. Et c'était le début. Et ils vont beaucoup rire.
Ça, c'est sûr. Simon? Quelque chose à ajouter ?
Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, si j'ai envie de m'adresser plutôt à la jeune génération, c'est-à-dire de peut-être de 15 à 35, quoi, de leur dire, mais ce qu'il y a d'intéressant dans la série, et ce qu'on a essayé de faire en sous-trame, c'est voilà, de la création finalement, de tous ces objets que vous avez dans les mains aujourd'hui, d'imaginer comment trois amis, un peu par le fruit du hasard, vont avoir cette idée et concevoir finalement le premier réseau social. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée. En fait, souvent, on dit que dans la technologie, c'est soit le Minitel, soit le sexe qui ont fait les plus grandes progressions comme ça technologiques. Bah, c'est un peu ce à quoi on assiste de façon assez, assez discrète et assez jeune dans cette première saison.
C'est vrai. Très chouette. Antoine.
Moi, je vais juste dire, laissez-vous guider, laissez-vous tenter par cette merveilleuse série.
Ouais, parce que c'est du divertissement. C'est un super divertissement avant tout également. Le mot de la fin. Paul.
Et bah, il me semble que les deux premiers sont gratuits sur OCS.
Ah,
et ça n'a pas de prix, c'est le cas de le dire. Non, en tout cas, oui, je pense.
On vous avait dit que c'est le vendeur de la bande, trio.
J'y vais à fond. Non, mais c'est un 10x26, tous les épisodes sortent en même temps aussi. Moi, je pense que c'est une série qui se binge watch. Et j'en ai fait l'expérience d'ailleurs parce que on a vu la série assez longtemps après qu'on l'ait tournée. J'ai oublié plein de trucs. Je me suis fait prendre au truc autant qu'un spectateur lambda, je pense. Je dis ça alors qu'évidemment j'ai aucun recul sur ce qu'on a fait, bien sûr. Mais par contre non, c'est binge watcher ça. Amusez-vous pendant les fêtes là. Il y a le couvre-feu en plus. Ah, on n'a rien à faire. On pourra pas faire la fête le 31. Donc allons-y. On fera la fête sur OCS tous ensemble avec nos Minitel.
Bon, super, non, on est tout à fait d'accord. Merci à tous pour votre présence, pour cette série pleine de peps et de bonne humeur qui va effectivement égayer nos soirées. Rendez-vous donc à partir du 17, c'est-à-dire dans très peu de temps, dans 2 jours, sur OCS, et puis inscrivez cette série, encore une fois, dans vos agendas bêta-série. Et puis, à bientôt également pour une nouvelle émission Originals sur bêta-série La Radio. On se quitte avec une petite leçon sur la relation client donnée par notre amie Chantal, la prostituée coach de la série.
Oui, tout à fait.
Chantal, donc, pour conclure sur 3615, Monique, merci encore beaucoup à tous.
Merci
beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Le client, faut le respecter. Et le surprendre. Si vous voulez qu'il vous soit fidèle, surtout n'assouvissez pas son fantasme tout de suite. Faites durer. Frustrez-le. Créez le désir. Créez-lui ses propres fantasmes. Et alors là, seulement là, il vous suivra comme un chien suit sa maîtresse. Par exemple ici, plus c'est long, plus c'est cher. Sucre ?
Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.